dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et au verset 4 et 5. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Il est question ici d'une construction, d'une édification, celle de la maison spirituelle, du nouveau temple qu'est l'Église, et c'est un chantier auquel nous sommes appelés à tous participer. Et ce qui sera dit ce matin tournera au fait de l'édification, d'être édifiant dans l'Église, de participer à l'élévation de l'Assemblée vers le Seigneur Jésus. Amen. Nous ne voulons pas avant tout parler de grandeur numérique, mais de grandeur spirituelle. Nous élever pour glorifier le Seigneur. Le temple de l'Ancien Testament préfigurait l'Église, qui est le temple spirituel, et ce temple spirituel est en construction. Et nous sommes en charge, quel honneur, de bâtir la maison de Dieu. Amen. Les bâtisseurs, dans le livre de Néhémie, sont vraiment mis à l'honneur et nous participons à cette construction. Régulièrement, dans l'Ancien Testament, le temple a dû être réparé, reconstruit, rénové. À chaque fois que le peuple de Dieu est revenu à Dieu, il s'est occupé de la maison de Dieu. Il y a même un prophète qui, à un moment donné, a dû dire « Vous lambrissez vos maisons alors que ma maison est détruite, alors vous avez beaucoup semé, mais vous moissonnez peu. » Ils étaient malheureux. Pourtant, ils disaient, et le prophète fustige, « Vous dites, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu, mais le temps de lambrisser les vôtres, oui. » Et mais tant que nous ne nous occupons plus de la maison de Dieu, ça ne marche pas dans nos vies, dans nos cœurs. Ça ne va pas bien, on est malheureux. Au lieu du culte, on peut aller se promener à la mer, puisqu'on est près de la mer, ou faire autre chose. Mais je vous assure qu'une vie loin de la maison de Dieu, ça ne va pas être une vie d'abondance, mais une vie de disette, de pauvreté intérieure, de misère. Nous avons besoin, ensemble, de construire la maison de Dieu. Jérusalem, ville de la paix. Que la maison de Dieu soit une maison de paix, d'édification, alléluia. Que ce soit une maison où Dieu y trouve son repos. Ah, c'est étonnant de lire dans l'Ancien Testament que là où il y avait le temple, c'est là où Dieu y faisait résider son nom et c'est là où c'était pour lui un lieu de repos. Dieu a-t-il besoin de se reposer? Mais je crois qu'il est écrit quand même que Dieu est en colère contre ce monde, Romains chapitre 1er. Dieu n'est pas en repos quand il voit l'humanité actuelle, mais il est en repos quand il voit l'Église. Alléluia. Ça ressemble à Noé. Après ce déluge dévastateur, il fait un sacrifice. Et là, c'est une agréable odeur pour l'Éternel. Alors il jure et il montre dans les cieux le signe que plus jamais il ne détruira par les eaux la terre. Peut-être que Dieu a besoin sur la terre d'un lieu de repos. Et c'est nous, l'Église, qui pourrions faire élever vers lui une odeur apaisante. Amen. Que Dieu soit en colère contre le monde, oui, mais qu'il soit apaisé dans l'Église. Amen. Par le sacrifice de bonne odeur qui lui revient. Oui, les pierres de ce temple sont vivantes parce que c'est chacun d'entre nous. Amen. La pierre de fondation, c'est Jésus-Christ ressuscité. Et le résultat, c'est de constituer un saint sacerdoce. Quelle différence avec l'ancienne alliance où il n'y avait qu'une tribu et encore pour être sacrificateur, c'était même une famille seule dans cette tribu qui pouvait être sacrificateur, sorte d'intermédiaire entre Dieu et le Juif. Quelle grâce! Nous sommes tous en Jésus-Christ un royaume de sacrificateurs. Amen. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Nous avons en lui accès auprès du Père. Amen. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un de meilleur que nous. Celui qui est meilleur que nous, c'est celui qui a donné sa vie sur la croix. C'est de lui dont nous avons besoin. Et en son nom, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et le but dans ce passage de ce temple spirituel, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Des sacrifices spirituels. Nulle question de revenir en arrière pour offrir toutes sortes de sacrifices diverses et variés. Nous n'avons plus besoin de sacrifices non plus pour être réconciliés avec Dieu, mais nous lui offrons maintenant des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices de consécration, des sacrifices de louange, des sacrifices du cœur, par le Saint-Esprit, des sacrifices spirituels. Amen. Prenez votre part lorsque nous avons nos réunions. Alors, il n'est pas écrit dans la Bible, il faut qu'un chrétien prie à haute voix dans l'église. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est écrit dans la Bible que nous sommes appelés à nous édifier pour faire une maison spirituelle afin d'offrir des sacrifices spirituels. Et parmi les sacrifices spirituels, cela en fait partie, mais cela ne se résume pas à cela, il y a votre prière avec l'église, dans l'église. Amen. Bien sûr, c'est tous les jours de notre vie. Mais c'est aussi quand nous nous réunissons. Ne dites pas, moi c'est nul. Moi je ne sais pas prier. Et nous avons parfois tort de prier trop longtemps dans nos réunions parce que ça n'encourage pas ceux qui se disent qu'ils ne savent pas aligner plus que deux phrases sans faire une faute. Un mot, une petite phrase. Merci Seigneur. C'est une belle louange quand c'est une louange spirituelle sincère. Amen. Oui, offrons que ce lieu ne soit pas un lieu pour nous faire plaisir. Un lieu comme on irait à l'église le dimanche matin, comme on peut aller le samedi soir au restaurant ou que sais-je encore ailleurs, pour y trouver une satisfaction personnelle. C'est la raison pour laquelle bien des chrétiens vont d'église en église, parce que ce qui leur intéresse, c'est pas d'offrir à Dieu un sacrifice spirituel dans une maison spirituelle. Ce qui les intéresse, c'est de trouver l'église qui les convienne. C'est le self-service chrétien. Et on n'est plus du tout dans un culte qui plaît à Dieu. Mais on est dans une consommation chrétienne pour son propre plaisir. Il y a des moments dans la vie chrétienne, on n'est pas en forme. Il y a des moments dans la vie de l'église, il y a des moments difficiles. Il faut s'accrocher. Être spirituel, c'est être plus qu'émotionnel. Quand on est trop émotif, on est très fluctuant. On est sur la montagne et on est dans la vallée. Très vite. Apprenons à, dans la vie avec le Seigneur, avoir une construction spirituelle. Quel que soit, comme nous l'avons chanté, les vents et les marées. Nous voulons continuer de bénir le Seigneur. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. L'Église est vivante, ce n'est pas avant tout un bâtiment. Nous avons un très beau bâtiment et félicitations pour tout ce travail que cela représente. Et je mesure qu'il y a eu une vraie consécration dans des dons d'argent, de temps. C'est une très bonne chose. Mais l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Elle est vivante. L'Église, c'est nous. Amen. Alors nous avons un beau bâtiment. Est-ce que nous sommes aussi beaux que le bâtiment ? On peut se poser la question parfois. Des fois, certainement plusieurs, moi ça a été aussi mon cas, je me suis converti dans une église, alors ça c'est, on est français, donc pour nous une église c'est le bâtiment, donc dans une église, mais alors franchement, le local, ça craignait. Je suis rentré, c'était une vieille porte battante western, je faisais noir, c'était peut-être la mode il y a longtemps, du tissu mural, je ne sais pas si ça existait, du tissu mural, c'était horrible. Il y avait un orgue, mais un orgue, je ne sais pas de quelle année il datait. Un violon. Et moi, j'écoutais le hard rock, je suis venu avec les cheveux jusque-là, la boucle d'oreille. Quand je suis rentré dans ce local miteux, je me suis dit, au secours, au secours. J'avais envie de partir, mais je n'osais pas. Heureusement que je ne suis pas parti. C'est là que le Seigneur a touché mon cœur. C'est là que le Saint-Esprit, par son onction, a brisé ma vie. Alléluia. Parce que l'Église, c'est autre chose que tout ça. C'est autre chose qu'un bâtiment, qu'une technique. Que sais-je encore ? L'Église, c'est nous. Si nous allons bien, l'Église ira bien. Si nous n'allons pas bien, l'Église n'ira pas bien. Et on peut essayer de remplacer l'onction ou la bonne santé spirituelle par toutes sortes de choses, ça sonnera faux. Ce qui sonne juste, c'est ce qui est de Dieu. Alléluia. Une maison spirituelle que nous avons à édifier. Alors j'ai pensé trouver aussi des correspondances avec la façon dont le temple de l'Ancien Testament a été construit. Alors on peut deux petites correspondances parce qu'il y aurait tellement à dire. Je vous propose de voir avec moi dans 1 Roi, chapitre 6, verset 7. Et nous verrons là une drôle de caractéristique. 1 Roi, chapitre 6, verset 7. 1 Roi, chapitre 6, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Un chantier silencieux. Ça n'existe pas. Alors, on insiste. Les entreprises insistent sur les EPI. Casques, lunettes, aussi bouchons pour les oreilles, chaussures de sécurité. Les EPI. Ici, il n'y avait pas besoin de se protéger les oreilles. C'était un chantier silencieux. Autrement dit, un chantier paisible. Alléluia. Il faudrait que nous bâtissions dans la paix, sans trop de bruit, sans trop de marteaux, sans trop de haches. Il n'y avait pas de marteau, il n'y avait pas de hache. Il y a peut-être des outils qu'il faut déposer à la maison et pas prendre aux réunions. Et puis l'église, ce n'est pas que les réunions, en fait. Quand je parle d'une construction de l'église, je ne parle pas du bâtiment, et je ne parle pas seulement que des moments où il y a des réunions. Parce que l'église se construit tous les jours de la semaine. Elle vit tous les jours de la semaine. Elle n'existe pas que quand elle se réunit. C'est une réalité spirituelle de chaque jour. Et chaque jour, chacun dans nos vies, nous participons à ce chantier. Alléluia. Alors, c'est certainement important d'être chacun d'entre nous une pierre déjà travaillée, déjà taillée. Que le Seigneur puisse nous changer, nous améliorer, nous tailler. Quand nous sommes venus au Seigneur, on est venu brut, pierre brute. Mais cette pierre-là, elle ne peut pas s'emboîter dans l'église comme ça. Pour qu'elle puisse s'emboîter dans l'église, ben il faut la travailler selon le plan de l'architecte, de l'ingénieur. Et je ne sais pas, vous avez peut-être envie d'être la pierre au-dessus. Mais si le Seigneur a décidé que vous serez la pierre au milieu, c'est lui qui décide. Et selon l'emplacement qu'il a prévu pour vous, il vous donnera une forme adaptée à cet emplacement. Il taillera la pierre pour cet emplacement. Pour déjà participer à cette construction, il faut accepter que c'est le Seigneur qui choisisse pour chacun d'entre nous. Et ainsi, c'est lui qui sait quel meilleur travail il faudra faire dans nos vies. Nous, nous avons nos pensées, nos idées, mais nous allons nous faire beaucoup de mal si nous n'acceptons pas que Dieu nous travaille. Parce que derrière, sans que nous nous en rendons compte, nous ne voulons pas être cette pierre choisie par le Seigneur, mais que nous désirons être autre chose que ce que le Seigneur désire. Un chantier silencieux, je sais que parfois nous n'aimons pas trop le silence dans cette société très moderne, bien qu'il y a beaucoup de maladies psychiques, même dues au bruit, et la fatigue du travail, plus qu'on ne le pense pour certains, ça dépend du travail, vient aussi du bruit. Mais il faudrait que nous apprenions à nous taire, à ne pas faire trop de bruit. C'est aussi spirituel. Parfois, le silence. Alors j'ai pensé lire avec vous 2 Rois, chapitre 18, verset 36, pour regarder un passage qui m'a toujours étonné. 2 Rois 18, 36. 2 Rois 18, 36. C'est quand Sennachérib, le roi d'Assyrie, envoie son porte-parole menacer Ézéchias, Jérusalem, et même volontairement se déléguer de Sennachérib parle en hébreu. À un moment donné, les délégués d'Ézéchias disent à cet homme: ne nous parle pas en langue araméenne, tout le monde comprend, mais nous on comprend votre langue. Et là, quelle insolence, ces délégués de Sennachérib disent: mais justement, et ils se tournent vers la muraille, ils disent: mais on est venu pour faire de la division. Non, ils n'ont pas dit ça. Mais nous on est venu pour le bien de tous, tout le monde, on va leur proposer la paix. Et après, on va les déporter, mais ça sera encore mieux que leur maison, ça sera encore mieux que leur champ. Justement, on n'est pas venu parler qu'à vous, on est venu parler à tout le monde pour diviser, pas pour aider. Et là, il y a cette réaction difficile. Verset 36. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre: vous ne lui répondrez pas. Amen. C'est difficile de se taire. Vous ne trouvez pas? Surtout quand on est des centaines ou des milliers. Et qu'il y a quelqu'un là qui asticote, quelqu'un qui attise,
Et quelqu'un qui dit, mais je vous parle à vous là. Écoutez pas votre roi. Écoutez pas votre Dieu. Je vous parle à vous, sauvez votre peau. Je vous donne une chance de vous en sortir. Avec Ézéchias, vous allez tous mourir dans cette ville. Oh là. Et là, on entend ça. Et là, il y a l'insistance diabolique. Et la réponse, c'est pas de réponse. Silence. Même le monde dit, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Oui, vous savez, avec le diable, si on commence à discuter avec lui, on est mort. D'ailleurs, j'ai parfois lu des livres étranges sur des possédés, des spécialistes de délivrance qui passaient parfois des heures à discuter avec le démon. Non, non, non. Jamais dans les évangiles, Jésus ne prend le temps de tout cela. Il ordonne et il délivre. Alléluia. Vous savez, quand Ève a commencé à discuter, au lieu de se taire, avec l'adversaire, elle était tout de suite fichue. Si je suis persuadé de ça, le diable, il est plus rusé que moi. Et si je commence à essayer avec lui d'argumenter, de discuter, je crois que ça ne va pas bien se terminer pour moi. Attendons en silence le secours de l'Éternel. Amen. Jésus, quand il a été accusé, condamné injustement, il est étonné. Mais tu n'entends pas tout ce qu'on dit. Tu te tais. Il a dit qu'une seule chose, c'était pour donner sa vie. Il a dit que c'était bien lui, le Fils de Dieu. Il a dit qu'une parole, bien réfléchie, volontaire, pour aller à la croix. Mais il ne s'est jamais justifié, jamais défendu. Il s'est tu. Alléluia. Savoir se taire, c'est difficile. L'Écriture ne dit-elle pas que la femme chrétienne doit savoir parfois se taire avec son mari qui n'est pas chrétien ou qui peut être chrétien, mais pas dans un bon moment avec le Seigneur. Ah, on a envie de discuter. C'est mieux de prier. Amen. Mais c'est plus naturel de discuter. Mais c'est plus spirituel de prier. Amen. Construisons l'Église. Non en parlant trop, mais en priant, en nous tenant devant Dieu. Amen. Dans parfois le silence, si parfois vous entendez de mauvaises choses, le silence fera comprendre à la personne que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne voulez pas vous souiller par ces mauvais propos. Même avec les incroyants, vous savez, si vous commencez à vouloir vous mêler de disputes, j'aime bien ce proverbe de biblique qui dit que se mêler d'une dispute dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, c'est comme attraper un chien par les oreilles. Ben, faites ça, vous allez voir ce que vous allez vivre. Alors après, on va dire, ah, Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ils m'en veulent? Mais Seigneur, pourquoi, pourquoi? Ben, pourquoi? Ben, parce qu'il fallait se taire. Et quand il y a des conséquences, quand on parle trop, il faut d'abord confesser son péché. Seigneur, je te demande pardon, tu es juste, j'ai le retour de ma nivelle, c'est le boomerang qui me revient en pleine face. Pourtant, quand je commençais à parler, je sentais dans mon cœur que tu me disais, tais-toi. Mais j'ai parlé quand même, maintenant tu me punis par les incroyants, parce que j'ai des conséquences de mon manque de maîtrise. Seigneur, je te demande pardon et te demande la force maintenant d'affronter avec douceur et de patienter. Amen. On va vite à dire Seigneur, Seigneur, sauve-moi, mais avant que le Seigneur nous sauve, le Seigneur attend de nous parfois que l'on soit honnête et que l'on dise sauve-moi, mais je te demande pardon. C'est moi qui me suis mis dans le problème quand même. Et ça, je crois toujours, le Seigneur est bon quand on reconnaît nos fautes, quand on reconnaît que c'est à cause de nous qu'on est dans certains problèmes. Le Seigneur ne va pas nous laisser dans ces problèmes-là. Alléluia. Il va nous en sortir. Il nous en fera grâce. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que le Seigneur va peut-être nous apprendre certaines choses. Mais le Seigneur est toujours avec nous quand on reconnaît ses fautes. Toujours. Et c'est ça le plus important, après tout. Ce qui est le plus important, ce n'est pas que d'un coup ça change. Le plus important, c'est qu'on se soit comme réentendu avec le Seigneur. Et qu'il soit tout à nouveau près de nous. C'est ça qui compte. Amen. Alors, ils ont su se taire. Apprenons cela dans la construction de l'Église. Une deuxième analogie avec le temple de l'Ancien Testament, c'est la qualité des matériaux. Ce qui frappe dans la construction de la maison de Dieu, c'était que ce qui était utilisé, c'était des matériaux de qualité. Même le bois était un bois de valeur particulière. Alors lisons 1 Corinthiens chapitre 3, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 9. Allez, verset 8, ça peut être bien. Celui qui plante, donc c'était lui qui avait planté, Paul, et celui qui arrose, c'était Apollos ensuite, sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, c'est une première image. Deuxième image, une construction de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été faite, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ce sont tous des matériaux qu'on retrouve dans la Nouvelle Jérusalem à la fin de l'Apocalypse. Du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Voyez bien que nous sommes le temple de Dieu, comme dit l'apôtre Paul et comme Pierre le suggérait dans son épître, dans notre texte de base. Bâtir avec des bons matériaux, ici, or, argent, pierres précieuses, de quoi peut-il s'agir? Dans l'Écriture, la foi est comparée à quelque chose de plus précieux que l'or le plus fin. Bâtir avec de l'or, c'est bâtir avec ce qui est divin et dans la foi de la parole, on en a déjà parlé quelques instants dans un culte, la foi communautaire, il y a une seule foi. Bâtir en or, c'est bâtir dans une foi qui connaît de plus en plus le Seigneur. Amen. En argent, l'argent c'est la rédemption, toujours bâtir dans la consécration de nos vies. Le résultat de l'argent, c'est qu'on appartient à Dieu. L'argent, c'est un symbole de rédemption et la rédemption, c'est être racheté pour Dieu, pour lui appartenir. Bâtir avec de l'argent, c'est bâtir dans la consécration de nos vies. Que donnons-nous au Seigneur dans nos vies? Quel temps lui accordons-nous? C'est inutile de vous culpabiliser, mais il est bon quand même. Les prophètes étaient là pour parler avec vérité. Nous n'avons pas besoin de nous culpabiliser, la condamnation n'est pas de Dieu. Mais la repentance, oui, c'est de Dieu. Et nous avons bien besoin de retrouver la qualité des matériaux, la qualité de l'argent dans nos vies, la qualité de la rédemption. C'est une chose de dire, Jésus, tu es mort pour moi sur la croix. C'est autre chose que sa rédemption nous conduise dans la consécration. La vraie reconnaissance pour la rédemption, c'est la consécration de nos vies. Amen. C'est plus que des paroles. C'est une vie donnée. Les pierres précieuses, je crois qu'on peut parler des fruits de l'esprit. Amen. L'amour, la foi, la maîtrise de soi. Parlais tout à l'heure de ster. Quand on parle beaucoup, c'est qu'on n'a pas de maîtrise de soi. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est écrit. C'est la maîtrise des pensées, c'est peut-être encore pire ça. Je ne sais pas comment vous êtes, mais des fois, quand on a un problème ou quand on a une mauvaise chose, oh là là, ça tourne. Ça devient obsessionnel. C'est un manque de maîtrise de soi dans les pensées. C'est une belle pierre précieuse, la maîtrise de soi dans la maison de Dieu. Amen. Hein? Avoir une maison en or, en argent, en pierre précieuse. Bon, dans le contexte, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la maison de Dieu ici, il y avait une réaction enfantine des Corinthiens. Ils préféraient des serviteurs à d'autres. Et celui qui payait cher dans tout ça, c'était Paul. Alors là, les Corinthiens n'appréciaient pas beaucoup Paul. Non, c'était quelqu'un qui les impressionnait pas beaucoup. C'était des Grecs. Les Grecs, c'est la beauté, la rhétorique. C'est la mentalité comme ça. Mais Paul, c'était un juif. Et les juifs, ils n'ont pas du tout cette mentalité-là. C'est d'abord le fond, ce qui compte. Pas forcément l'emballage. Mais les Grecs, ben, quand ils entendaient Apollos, oh, certains, ils disent, oh, ça, c'est un serviteur de Dieu. Alors pour nous, ça nous semble étonnant parce qu'on sait qui est Paul. On sait qui est Paul. Il a écrit 13 épîtres. Mais on sait qu'ils se trompaient, les Corinthiens. C'est sûr. Mais à l'époque, le Nouveau Testament n'existait pas. Paul était un serviteur parmi d'autres serviteurs. Et je ne sais pas si vous, à l'époque, si vous étiez dans l'église de Corinthe et que vous entendiez prêcher Paul, je ne sais pas ce que vous auriez dit, ce que j'aurais dit. Peut-être que nous l'aurions méprisé. Vous savez ce que veut dire Paul ? Petit. Il s'appelait Saul de Tarse. Mais son nouveau nom en Christ, c'est Petit. C'est tout un message, ça. Petit, méprisable peut-être, en tout cas pour les Corinthiens, oui. Ils ne savaient pas la valeur qu'ils avaient. C'est terrible, ça. Alors, là aussi, construisons la maison de Dieu dans le respect de tous les ministères. Amen. Il n'y a pas des super pasteurs et des pasteurs pas terribles. C'est avec les années que dans nos assemblées, la personne du prédicateur est devenue presque prioritaire. Mais en réalité, nos assemblées ont été fondées sur l'amour de la parole de Dieu et non pas l'importance du messager, mais de la parole de Dieu. Si vous méprisez un prédicateur, vous méprisez la parole qu'il annonce. Et nous sommes appelés, jamais avant tout, à écouter un homme, mais Dieu par sa parole. Amen. Et il est bon que dans nos vies, nous connaissions diversité de ministères, parce que parfois il y en a avec lesquels vous accrocherez, vous aimerez, et d'autres moins. Et c'est tant mieux. Parce que est-ce que dans l'église, c'est pas comme ça déjà? Entre nous, il y a peut-être des frères et sœurs que vous aimez bien. D'autres moins. C'est le même phénomène. C'est qu'on est méchant. On a des préférences. Mais ça fait mal. Ça n'édifie pas. Ça ne construit pas. Ce qui construit, c'est avoir un amour sans favoritisme. Et à Corinthe, je résume le problème qu'il y avait. Au lieu d'apprécier, il comparait. C'est toujours une erreur de comparer. Oh, les premières années de vie chrétienne, ça dépend de notre passé, je le sais bien, de là où on vient. Mais souvent, j'avais tendance à comparer. Et ma femme de dire, arrête de comparer. Alors, je me comparais aux autres et je me disais, oh là 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 là. Malheur à moi. Oh, parfois en me comparant, on me dit, oh, je suis pas mal. Et tout ça, c'est de l'orgueil. C'est charnel. On n'est pas appelé à comparer, mais à apprécier. Amen. Parce qu'à la fin, on est toujours malheureux. Parce que quand on compare, on n'apprécie jamais le temps présent. Soyons simples. Apprécions les bonnes choses du Seigneur dans l'Église. Apprécions les frères et sœurs. Ne les comparons pas. Non, bah lui, ouais, il est comme ça. Non. Apprécions-nous. La Bible dit, comme Christ nous a accueillis, accueillons-nous les uns les autres. Amen. Les ministères, apprécions-les. Apprécions-les. Parce qu'on touche à quelque chose quand même de sacré, de saint, qui a trait à la maison de Dieu. Comment construire la maison de Dieu sans apprécier les ministères? Je ne vous parle pas de moi, je vous parle les ministères. D'une façon générale. Et Paul a été admirable dans sa réponse. Les Corinthiens essayaient d'opposer Apollos et Paul. Et relisez l'épître aux Corinthiens. C'est superbe comment Paul, dans sa sagesse, répond aux Corinthiens. Il n'a jamais fait l'erreur de tomber dans ce piège-là. Il n'a jamais dit aux Corinthiens, attention, hein, il leur rappelle qu'il est leur père, mais il dit, c'est moi le fondateur, c'est moi le meilleur. Ah non, hein, c'est à moi que vous appartenez. Et au contraire, il parle en bien d'Apollos. Mais il dit, celui qui a planté, celui qui a arrosé, sont égaux. Égalité des ministères dans leurs différences. Amen. Et ça lui permet de dire, mais c'est Dieu qui a fait croître. À Dieu soit la gloire. Amen. Parce que vous le vouliez ou non, quand vous comparez et que vous préférez, ce n'est plus la gloire pour Dieu. C'est la gloire pour un homme. Mais si nous voulons glorifier Dieu, alors il faut que nous comprenions que nous sommes tous égaux. Nous sommes différents, mais égaux. Et puis, vous savez, dans votre vie, si vous avez besoin de bêcher votre jardin et qu'on vous donne une masse, vous pouvez avoir la plus belle des masses. C'est très efficace une masse, je sais ce que c'est, j'en ai détruit des murs dans ma vie de ministère et autres. Mais pour labourer, ça ne sert à rien. Il faut avoir une bêche. Alors vous pouvez vous dire, ah non mais moi je préfère la masse. Et vous achetez que des masses, avoir un jardin plein de masses. Mais quand vous aurez besoin de faire autre chose que de casser un mur, ben vous n'aurez rien à votre disposition. Dieu a beaucoup d'outils dans son garage. Alléluia. Et le meilleur des outils, ce n'est pas le meilleur de tous, c'est le meilleur pour ce qu'il y a à faire. Amen. Et tous dans l'assemblée, nous sommes des outils différents. Et selon ce qu'il y aura à faire, le Seigneur utilisera quelqu'un pour qu'il soit une masse peut-être, je ne sais pas, quelqu'un d'autre pour qu'il soit une bêche. Voilà. Et au fond, c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Alors on va peut-être, j'aurais voulu aller un peu plus loin dans être édifiant et constructif, mais le temps passe, on va lire dans Agé quand même. Agé chapitre 2 verset 1. Agé 2, 1. Agé 2, 1. Agé 2, 1, jusqu'au verset 9. Le 21e jour du 7e mois,
La parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Agé 2, verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, c'est repris dans Hébreu ça, et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Donc c'est un symbole, cet ébranlement universel est un symbole de l'ébranlement des nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors très vite en passant, on y reviendra certainement, c'est la reconstruction du second temple. Le premier avait été détruit par Nebuchadnezzar le Babylonien. Et après un temps fixé par Dieu, les Juifs étaient revenus et s'étaient mis à reconstruire le temple. Mais seulement entre ce qu'ils faisaient, ce second temple qui commençait à être rebâti, et le temple de Salomon, franchement, c'était une peau de chagrin. Il y avait de quoi être découragé. Et d'ailleurs, quand ce second temple est reconstruit, on le voit ça dans les autres livres, il y en avait qui étaient heureux, il y en avait qui pleuraient. Ceux qui pleuraient, c'était les vieux qui avaient vu le premier temple de Salomon. Parce que à la fois, c'était formidable qu'il redémarre, et en même temps, franchement, ça paraissait ridicule. Et là, l'homme de Dieu vient. Ah, que j'ai poussé par l'esprit. Il leur dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. La gloire de ce second temple sera plus grand que celui de Salomon. Oh. Ça ne s'est jamais vraiment accompli, oui et non, parce qu'après Hérode, à partir de ce second temple, fera le temple que l'on connaît dans le Nouveau Testament, qui était une merveille, un gigantisme romain, mais qui quand même a été détruit en l'an 70. Cette prophétie, d'après l'Épître aux Hébreux, s'accomplit quand le Seigneur reviendra. Et que tout sera ébranlé, que les nations seront ébranlées, et que Dieu triomphera. Et la Bible dit même que dans la gloire éternelle, il n'y aura plus de temple parce que l'Éternel sera lui-même au milieu de nous, et cela veut dire que tout sera sacralisé. Que tout dans la gloire sera le temple. Que dans la gloire, nous vivrons enfin l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, peut-être vous pourriez vous dire comme ces Juifs qui reconstruisaient, oh, c'est pas terrible. C'est difficile. C'est petit. Non. C'est faux. C'est pas vrai. La gloire de l'Église sera de plus en plus grande. Et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel d'auprès de Dieu dans cette gloire merveilleuse avec tous les matériaux décrits dans Apocalypse 21 et 22. Que Dieu soit béni. Il y avait une petite anecdote, paraît-il, quelqu'un qui visitait un chantier et qui demandait à un ouvrier, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un tailleur de pierre. Il répondait, je taille une pierre. Puis il continue. La même question à un autre tailleur de pierre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et de se retourner, il dit, je bâtis une cathédrale. Ah, c'est pas la même chose.
Nous bâtissons l'Église de Jésus-Christ. Et il n'y a pas plus glorieux et merveilleux. Et quelle grâce d'y participer. Nous ne bâtissons pas que l'Église évangélique d'Aubagne, 175 allée de la Fourmi. Mais non. Nous bâtissons l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et ensemble, nous voulons cela pour Dieu. C'est le texte de la fin. Éphésiens 2, 21, s'il vous plaît, on termine par cela. Éphésiens 2, 21. Parce que ça, c'est le but. Éphésiens 2, 21. Éphésiens 2, 21, il est dit, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, Éphésiens 2, 22, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. » Quel est le but de l'édification de l'Église ? C'est que Dieu vienne habiter au milieu de nous par l'Esprit. À chaque fois que la maison de Dieu a été construite, à chaque fois, quand ça s'est terminé, la nuée remplissait le tabernacle, le temple de Salomon. Vous savez, nous construisons l'Église pour que le Seigneur soit au milieu de nous. Amen. Et si vous connaissez le livre d'Ézéchiel, il y a quelque chose de terrible. Dieu montre à Ézéchiel le départ de la gloire de Dieu du temple. Et un jour, peut-être, il faudrait en faire l'étude. Ézéchiel, c'est un prophète intermédiaire. Il a vécu du temps, de la réalité du temple et de Jérusalem, en avertissant les Juifs que ce temple a été détruit. Les Juifs n'ont pas voulu écouter, et le temple a été détruit de son vivant, Ézéchiel. De son vivant. Un prophète qui a vu quelque chose de terrible. Mais à la fin de son livre, Dieu lui montre un nouveau temple. Ézéchiel 40 à 48. Et la fin du livre d'Ézéchiel, c'est Dieu qui revient dans son temple. Alléluia. Mais dans le livre d'Ézéchiel, il a vu à un moment donné la gloire repartir. Et quand elle est revenue, il voit d'abord un fleuve. Jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux. Et après, il est complètement emporté. Que la gloire de Dieu revienne dans ce lieu. Que la présence du Seigneur, que sa nuée remplisse sa maison. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Parce qu'on va chanter 2-3 chants et qu'on aura une bonne réunion. Ce n'est pas comme ça. Il faut, pour que la gloire revienne, que l'Église s'élève, s'édifie. L'Église s'édifie pour que la nuée vienne nous remplir. Amen. Construisons ensemble l'Église de Jésus-Christ pour que son esprit y trouve toute sa place. Amen. Ce que j'ai dit au point de vue collectif, c'est tout autant vrai au point de vue personnel. Mais que Dieu nous aide à être des bâtisseurs. Mon mot de la fin, c'est de vous rappeler quand même, c'est le diable qui détruit. Ce n'est pas Dieu. Nous devons édifier la maison de Dieu. Amen. Je propose que nous chantions avec Frédéric et on prendra la scène.